Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Rediffusion aujourd'hui de l'entretien que nous avait accordé Pierre Bélanger, fondateur et PDG de la radio Skyrock en mai dernier. Pierre Bélanger est également auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés à la culture numérique. Le dernier en date est La souveraineté numérique.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
La neutralité du net, c'est un piège à démocrates. Bien entendu, nous sommes tous pour qu'il n'y ait pas de censure. Nous sommes tous pour que les contenus, les informations puissent circuler librement, sans entrave et sans discrimination sur le réseau. C'est impossible d'être opposé à ça quand on a un goût de la liberté. Maintenant, qu'est-ce que ça cache, ça? Ça cache cette idée de dire au réseau, rester stupide, c'est la condition de la démocratie. C'est-à-dire, n'interférer d'aucune manière. Donc, finalement, ne développez pas de service, ne développez pas, en fait, une intelligence du réseau qui vous permettrait d'être partie prenante. Alors, on peut avoir un réseau intelligent qui ne discrimine pas. Mais toute l'astuce de la neutralité du net a été d'associer la bêtise des réseaux à la liberté, en disant « puisqu'ils sont bêtes, nous serons libres ». Ils peuvent être intelligents et nous sommes libres aussi. Mais ça, ça n'a pas été dit au départ. Donc, la neutralité du net, elle a été défendue par les grands acteurs de l'Internet.
Google, Facebook, etc.
Tant qu'ils en avaient besoin, puisqu'ils n'avaient pas développé leurs infrastructures. À partir du moment où ces services développent leurs infrastructures, et on vous parlait de Google, il y a un plan qui s'appelle Google Fiber, où il est en train de fibrer directement le territoire, ou mettre des services Wi-Fi.
Google
vous
Wi-Fi
avez,
à San Francisco.
Vous avez, oui, mais c'est accessible uniquement aux Android. Donc, bravo à la neutralité
téléphone,
du net.
Téléphone, donc, avec une OS Google.
Voilà, donc si vous voulez, vous êtes dans des logiques où la neutralité du net, c'est un moyen de contenir les groupes de télécommunications pour les empêcher d'évoluer le temps que ces grands acteurs du réseau puissent développer leurs infrastructures.
Et la grande bataille au sein de ces réseaux de logiciels, de ces algorithmes, c'est la bataille de l'OS, donc le cœur de ce réseau, l'OS, donc c'est l'outil qui va permettre...
C'est Operating System en anglais, c'est Système d'exploitation en français. En fait, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Le système d'exploitation, c'est le logiciel, donc l'ensemble des instructions qui permettent de faire fonctionner la machine. Ensuite, vous avez des applications, mais ce qui fait tourner la machine, ce qui fait que votre clavier parle à votre unité centrale et qui fait afficher des choses sur votre écran, ce qui pilote ça au départ, c'est ce système d'exploitation. Bon, ce système d'exploitation, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin des données. Vous avez besoin des données parce que ces données ont de la valeur. Mais enfin, vous avez besoin d'aspirer ces données. Tout obstacle dans cette aspiration de données doit être surmonté, contrôlé, maîtrisé. Hein, les premiers souverains du numérique, ce sont ces groupes-là. Donc vous devez d'abord contrôler le terminal, puisque c'est ça que touche l'utilisateur, c'est ça qu'il possède. Ensuite, son système d'exploitation, ensuite le réseau par lequel les informations transitent, ensuite l'ensemble du réseau de services et le déploiement de ces services sur un parc de serveurs. Et donc, vous avez là en fait une chaîne totale que vous souhaitez contrôler. Et le système d'exploitation, il est capital parce que si vous contrôlez le système d'exploitation, vous contrôlez le déploiement de tous les appareils connectés. La voiture connectée, elle fonctionnera sur un système d'exploitation issu du mobile. Et ça vaut à ce moment-là pour l'affichage urbain, ça vaut à ce moment-là pour toute la signalisation urbaine, et finalement, ça vaut toute la robotique qui va arriver, va être sous ces systèmes d'exploitation.
Et donc cet écosystème, ce réseau-giciel, comme vous l'appelez, c'est un néologisme réseau-giciel, sa force, c'est qu'il collecte des données, toutes sortes de données, particulièrement des données personnelles sur nos mouvements, nos amis, nos connexions, on appelle aussi ça des métadonnées, donc ils peuvent savoir un peu comment les données s'organisent entre elles, et grâce à de nouvelles techniques, et grâce aux algorithmes, et grâce à ce qu'on appelle le data mining, donc l'exploration de ces données, on acquiert une puissance qui est... inimaginable, en fait.
Oui, alors, la définition de Claude Shannon, qui est un des pères de la théorie de l'information, en disant qu'est-ce que c'est l'information ? C'est ce qui réduit l'incertitude. Bon. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et quand vous êtes une entreprise, par exemple, vous faites une campagne publicitaire, vous dites, bon, bah, je vais mettre un peu des messages partout, je sais pas vraiment ce que ça va passer, une partie qui va marcher, je ne sais pas, etc. Donc, comment nous avons résolu le problème de l'incertitude au XXe siècle ? Par le gaspillage. C'est-à-dire en multipliant les moyens, en disant c'est comme si on jouait en fait à la roulette et on mettait des jetons sur toutes les cases. Ça, c'est notre méthode, avec un gaspillage infini.
Mais optimisé, parce qu'on essaye d'analyser le marché,
on réduit cette incertitude. Mais on n'a fait que la réduire, au sens où vous voulez acheter un journal, il est dans quelques dizaines de milliers de points de vente sur tout le territoire, mais vous ne savez pas dans quel point de vente il va être acheté. Qu'est-ce que fait la donnée ? La donnée, elle réduit l'incertitude, donc elle réduit le gaspillage, donc elle réduit la dépense. Donc c'est pour ça que la donnée a de la valeur. Et donc, cette valeur de la donnée qui est collectée sur vous en permanence va permettre d'avoir un joueur qui, lorsque vous allez jouer avec lui dans une compétition, en fait, va voir votre jeu, va voir vos cartes. Donc on a aujourd'hui une sorte de grande partie de cartes où il y a un joueur, quelques joueurs qui voient les cartes des autres.
Parce qu'en recoupant des données qui parfois même n'ont pas grand-chose à voir, on peut sortir des lois, des règles, anticiper certaines
choses.
Très
bien, tout à fait. Par exemple, prenez le cas de la banque. La banque accorde des prêts. Elle essaye de prêter au maximum, puisque effectivement, plus elle prête, plus elle a un rendement sur ses prêts. Maintenant, plus elle prête, plus elle a un risque de ne pas être remboursée. Donc elle trouve un équilibre, il y a des questions qu'elle peut poser, des questions qu'elle ne peut pas poser. Par les réseaux sociaux, par Internet, vous pouvez avoir des informations qui vont vous donner un profil de gens, des personnes qui remboursent et de ceux qui ne remboursent pas ou remboursent mal. Par exemple, vous utilisez le terme « barbecue ». Si vous utilisez le terme barbecue, ça veut dire que vous avez probablement une vie sociale, vous avez peut-être un jardin, vous êtes peut-être invité, ça veut dire un certain niveau. Vous avez une probabilité de remboursement qui s'accroît. Si vous utilisez le terme avocat ou divorce, par exemple, là, ça veut dire que vous êtes peut-être dans des problématiques, des conflits, etc. Si vous faites des réservations de voyage, vous faites des réservations de voyage très tardivement. Ça veut dire que vous planifiez pas dans le temps. Donc peut-être, et vous avez vous apercevoir.
Et surtout
que,
en recoupant toutes ces données.
Voilà, en recoupant toutes ces données, en faisant des corrélations, etc., en créant des modèles à partir de ces données, simplement par la trace quotidienne que vous laissez, sans jamais avoir à un moment donné parlé de remboursement ou de prêt bancaire, on va vous accorder un prêt ou non, et on va vous mettre, en fait, des pénalités, ou un taux plus élevé, ou une assurance plus élevée, simplement à partir de ce recueil d'informations. Ça, c'est pas possible, sans qu'il y ait une vraie maîtrise des individus, et une maîtrise, je dirais, légale sur ce sujet.
Et tout ça nous mène, à vos yeux, vers une tempête. Pourquoi, je vous cite, une jeune subclasse moyenne est-elle en train de naître entre frugalité, débrouille et usage intensif du réseau, et que pour elle l'emploi continue, la famille installée, la propriété du logement, la couverture santé, la sécurité matérielle sont désormais inaccessibles. La réponse est claire, il ne s'agit pas seulement du coût du travail des pays émergents, d'ailleurs en augmentation, il s'agit également de la compétition accrue des machines, de l'automatisation et des algorithmes. Il s'agit d'une révolution anhumaine.
Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis issu d'une génération qui est celle du baby-boom, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 46 et 64. Et donc, mes concurrents, j'étais dans des classes où il y avait 50 élèves. Mes concurrents, ils étaient à côté de moi. Ils étaient en culotte courte à côté de moi sur les bancs de l'école. Bon. Aujourd'hui, vous prenez la même classe. Leurs concurrents, ce sont des serveurs un peu partout dans le monde et des machines auto-apprenantes qui sont capables d'enregistrer et de restituer en quelques secondes à peu près les 15 ans de scolarité. Bon, donc on est là dans une compétition, effectivement, qui dévalorise le travail. Bon, cette dévalorisation du travail, elle s'ajoute à la crise économique. La crise économique, c'est une suppression de postes. Ces postes reviennent quand la prospérité revient. Là, on est dans une crise numérique, c'est-à-dire une crise non pas de destruction d'emplois, mais de destruction de postes. Ce sont les postes même qui disparaissent. Donc, vous voyez émerger, en Europe, cette subclasse, en effet, de personnes qui, compte tenu de cette situation, n'ont plus accès à la société telle qu'on l'a connue. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des pays émergents. Moi, j'ai parlé des pays immergents, c'est-à-dire vous avez en Europe aujourd'hui des pans entiers de la société qui s'immergent hors des systèmes sociaux, hors des systèmes de fiscalité, monétaire, etc. On est à 10-15% de l'économie qui commence à rentrer dans ces systèmes-là, d'économie parallèle, d'économie alternative, d'économie sur réseau. Toute l'économie collaborative, elle est sur ce registre-là, c'est-à-dire... Puisqu'il n'y a plus accès au système, eh bien, il y a un autre système qui est en train de se créer.
Vous parlez de l'Europe. L'Europe, je vous cite, est le pays de cocagne du vol de données. Imaginez 500 millions d'habitants, 13 trillions d'euros de produit intérieur brut, supérieur à celui des États-Unis et triple du PIB chinois, et aucune réglementation efficace sur les données. Le portique à la sortie du magasin européen ne sonne jamais, et en cas de contrôle, on finit toujours par s'arranger avec le vigile bruxellois. Plus de peur que de mal.
Oui, c'est ça. Vous avez
une Europe qui donne quand même des signes positifs.
Une Europe qui se réveille. Donc ouais. C'est là, parce que faut en revenir.
Dans l'actualité, tout récemment, l'obligation à Google d'offrir un droit à l'oubli aux utilisateurs.
Sachant que c'est Google qui le décide. Donc c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire que on considère qu'il y a un droit et que c'est un acteur privé qui doit l'exécuter. Donc là, je dirais, on
marche. Mais c'est quand même une évolution.
C'est une évolution qui est extraordinairement dangereuse, puisqu'on donne à une société privée un droit sur les individus.
Et on doit justifier vis-à-vis de sa société pourquoi on le fait.
Donc c'est du seigneurage, c'est extrêmement grave. C'est une sorte de féodalité numérique absolument répréhensible. Ce qui est important, c'est que, et c'est pour ça que il y a une note positive, et c'est que mon livre est positif, au sens que c'est positif un diagnostic qui permet d'agir. Bon, c'est qu'aujourd'hui il y a un réveil en Europe, il y a un réveil en Allemagne, il y a un réveil au Brésil.
Il y a un réveil en France aussi.
Il y a un réveil en France qui commence, et il y a cette idée qui est de dire, voilà, il faut récupérer, retrouver notre souveraineté sur nos données. Ça veut dire la localisation des serveurs, ça veut dire un nouveau statut des données, ça veut dire encryptage des échanges. Bon, voilà. Le pays se réveille.
Il y a un débat, en tout cas, qui est en train d'émerger. J'ai vu récemment sur le réseau social Facebook des personnes qui parlaient de la localisation des serveurs, avec certains qui disaient que c'était stupide, d'autres qui disaient, ben, je préfère que ce soit les services secrets français qui voient ce que je mets sur, dans mes données personnelles. Et d'autres qui répondaient que c'est pas parce que les serveurs sont localisés dans un autre pays que ça va empêcher des services de sécurité américains, par exemple, d'obliger Google à les ouvrir ou des choses comme ça. Enfin, on sent qu'il y a un débat qui est en train d'émerger.
Oui, tout à fait. La localisation des serveurs, elle est quand même importante, puisque...
Donc les serveurs, c'est là où sont stockées les données.
Un serveur, c'est tout simple, c'est une machine qui en sert une autre. Ça s'appelle un serveur. Donc, vous connectez à Internet, vous connectez à un autre ordinateur, et cet ordinateur, puisqu'il accepte votre connexion, c'est un serveur. Donc, vous avez des normes serveurs, et ces serveurs-là, s'ils sont sur le territoire national, ils sont simplement soumis à la logique et aux droits de nos tribunaux. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? C'est avoir un litige qui vous renvoie vers un tribunal américain ou simplement aller au tribunal avec vos lois ? Il vaut mieux que ça soit sous nos lois. Hein. C'est assez simple, d'ailleurs.
Je l'ai dit, ce livre donc dresse un constat qui est pour le moins alarmant, qui est très clair, qui donne énormément d'informations. Il propose aussi des solutions. Vous avez choisi d'axer ces solutions sur la France, un petit peu plus sur l'Europe, et puis peut-être de vous adresser aux décideurs, aux gouvernants, je vous cite, « Face à ce défi, notre souveraineté numérique est la clé de voûte de notre maintien en tant que puissance et du devenir de notre prospérité et de nos libertés ».
Oui, donc j'ai beaucoup de chance avec ce livre, puisque je ne savais absolument pas quel serait son accueil, et il a un extraordinaire accueil.
Notamment chez les gouvernants.
Et notamment, je dirais que c'est un livre qui se vend dans le cockpit, en quelque sorte, c'est-à-dire qui aujourd'hui touche toute une population de gens qui sont intéressés à ces sujets et qui souvent ont les moyens d'agir. Donc oui, il y a aujourd'hui une problématique de souveraineté, et cette souveraineté numérique, en fait, tout le monde s'en fout au départ, la souveraineté numérique, mais quoi, qu'est-ce que c'est ce truc, etc. Il se trouve que maintenant ça touche l'emploi. Donc l'emploi est au cœur des politiques. Aujourd'hui, vous dites, on entend, relançons la croissance et ça relancera l'emploi. Vous avez une relance de la croissance aux États-Unis sans que l'emploi redémarre de manière corrélée. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est une crise numérique. Donc aujourd'hui, la croissance ne tire plus l'emploi. Donc il va falloir finalement tirer des leçons de cette révolution. Et c'est les gouvernants, ceux qui sont en poste actuellement et ceux qui suivront. Donc on est sur une échelle, je dirais, de maintenant à 5 ans, où les décisions doivent être prises de dire on cesse le combat sans même l'avoir commencé, ou on réagit.
Et vous proposez donc pour la France ou pour l'Europe, ça dépend, la référence fluctue à certains moments. En tout cas, vous proposez un plan réseau en 12 étapes pour nous protéger, pour protéger la France, protéger l'Europe.
Surtout développer, en fait. Il ne s'agit pas de construire une forteresse, il s'agit d'abord d'aider les Américains. Puisque d'abord, il faut voir que cette question de la souveraineté numérique, elle n'est pas traduite de l'anglais. J'ai pas lu un bouquin qui s'appelait Digital Sovereignty et je l'ai traduit en français. Il y a très peu de concepts neufs qui viennent hors des États-Unis sur l'internet. Ça, c'est un concept neuf. Donc il y a une pensée originale en Europe sur les libertés numériques. Cette pensée originale, elle aide tous les groupes civiques aux États-Unis qui se battent pour ces libertés et qui ont du mal à le faire. Donc nous avons des extraordinaires alliés aux États-Unis et nous sommes les alliés de tous les libéraux américains sur ces questions. Bon, donc déjà il y a ça. Au niveau français, nous pouvons faire des choses. Bon, ce que je crois, c'est que on est dans une dynamique où un pays peut donner l'exemple, lancer une dynamique, après s'associer à d'autres, probablement s'associer à l'Allemagne, et ensuite avancer. Je ne crois pas qu'une réunion en 26 langues permette de faire bouger les choses au départ. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut se lancer et on sera suivi.
On va pas revenir sur les 12 étapes. La première peut paraître idéaliste, c'est la création d'un réseau-giciel national, donc français. Donc un réseau-giciel, encore une fois, c'est cette idée d'une constellation de services, axée autour d'un OS, donc Operating System, un système d'exploitation. Mm-hmm. Alors quand je l'ai découverte, je me suis dit, ça peut être un petit peu idéaliste, un petit peu farfelu. Et quelques jours après, on lit dans l'Opinion que Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, souhaite développer, avec l'appui d'Orange, d'ailleurs vous souhaitez qu'on s'appuie sur une grande entreprise française comme Orange France Télécom, souhaite développer une OS française. Donc vous oui. avez fait des émules.
Bon, il faut être idéaliste. Au sens que... c'est bien d'avoir un objectif quand on veut lancer un grand projet. Il faut une vision, il faut un projet global qui nous anime. Ce projet, c'est la liberté et, je dirais, le progrès des individus et de nos économies dans cette logique de liberté. Donc oui, un OS, un système d'exploitation est nécessaire. Donc je suis en effet allé voir Arnaud Montebourg et je lui ai proposé un plan de création d'un système d'exploitation et il m'a donné son accord pour le faire et c'est ainsi que ce projet est lancé et j'espère qu'il aboutira. Alors, avec quels acteurs et avec qui ? J'ai souvent, et j'ai même dans le livre, cité notre opérateur de télécommunication principal. Pourquoi ? Parce que c'est une société où il y a énormément de talents, de compétences, de moyens, de possibilités. C'est une société qui a une participation des pouvoirs publics, donc qui est aussi c'est pour moi un service public, c'est-à-dire c'est au-delà d'une société privée. Et que donc, oui, ça peut être un acteur. Maintenant, c'est une société qui a son autonomie, ses dirigeants, ses décisionnaires. Si elle souhaite faire autrement, ça sera fait autrement. Mais c'est quand même une bonne piste.
Et du point de vue des individus, parce que Internet, c'est aussi un réseau d'individus, un réseau décentralisé, où les individus ont du pouvoir, enfin, ils peuvent faire certaines choses. On parle beaucoup de chiffrer ses communications, enfin, de toutes sortes de possibilités. Qu'est-ce que vous préconisez? Et sous question, pourquoi vous ne vous adressez pas plus aux individus qu'aux États ou qu'aux décideurs?
Le livre, il est en vente dans toutes les bonnes librairies, il est téléchargeable. Mais je suis avec vous aujourd'hui.
Oui, mais
donc
le plan...
on s'adresse aux individus. Qu'est-ce que les individus peuvent faire? Pas grand-chose.
Donc ça, c'est la réponse.
Non, mais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que on est dans cette logique aujourd'hui de exactement comme avec la pollution. Alors, on peut toujours avoir une action individuelle de tri de ses déchets et décider tout seul de faire le tri de ses poubelles. Mais à un moment donné, l'action collective, elle est forcément une action publique. Donc, aujourd'hui, ce à quoi on assiste de la part des individus, c'est à une prise de conscience. C'est le doute. C'est d'ailleurs le troisième ou quatrième sujet de préoccupation des Français aujourd'hui, quand même. C'est cette sorte de risque flou. Qu'est-ce qui se passe avec mes données? Mais il faut une action publique. Regardez comment l'action publique, elle a exigé en matière de pollution. C'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air. On est presque dans une logique environnementale. C'est-à-dire, j'ai une trace de données, comment elles sont utilisées, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que l'action publique, elle est capitale. Et la prise de conscience des individus, on l'a grâce à l'affaire Snowden. Et puis, l'usage des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jour où quelqu'un se dit, je sais pas, j'avais changé mes codes de machin, de notification, etc. Mais ça a été bouleversé. Et on se rend bien compte que notre vie privée, elle est en fait ouverte sur le réseau. Il n'y a pas de vie privée sur le réseau actuellement.
Et est-ce que le danger d'en appeler à un État, à la France en l'occurrence, mais c'est un conseil que vous pourriez donner à plein d'autres pays, est-ce que justement le danger, c'est pas de créer des sortes de nationalisme numérique et puis finalement de fragmenter le réseau dont la valeur est justement qu'il n'est pas fragmenté ou en tout cas qu'il ne devrait pas l'être?
Alors le réseau, c'est déjà un nationalisme américain au départ. Donc on est sous l'empire d'une nation qui contrôle toute la nomenclature, qui contrôle le code, qui contrôle l'intégralité des dispositifs. Donc on est déjà au sein de l'empire américain. Je dis pas ça de manière négative, c'est un simple fait. Bon, nous récupérer notre souveraineté, ça ne veut pas dire s'enfermer, encore une fois. On a la chance d'être dans un réseau. Et il y a une des lois du réseau, que c'est le plus rapide qui gagne, pas le plus gros. Ça, c'est notre chance. Ça veut dire que si on fait un réseau qui est plus libre, qui respecte mieux les personnes, Ces réseaux-là et ces logiques et les services qui vont développer vont se répandre dans le monde entier. Nous sommes dans une logique impériale, nous aussi, de fait, mais comme n'importe quel pays peut l'être. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des logiques de dire « attention, vous recréez, vous enfermez, vous nationalisez, etc. » On est dans des logiques où chacun peut adhérer, chacun peut rejoindre. Donc, on est dans des logiques plutôt de services en compétition plutôt que de nationalisme qui se referme.
Quelle place pour l'open source dans cet univers? Parce que l'open source, donc, c'est le fait de proposer des services avec un code qui est ouvert, donc qui permet des améliorations, qui permet aussi une transparence qui est de plus en plus importante. Est-ce que c'est nécessaire absolument l'open source? Je sais que l'OS imaginé donc par Arnaud Montebourg avec l'appui d'Orange devrait être en théorie open source, donc
oui,
code ouvert.
Dans ma proposition telle que je l'ai faite au ministre, la logique collaborative est au cœur du dispositif. Alors, c'est complexe parce que vous avez, d'une part, l'appel à l'État qui, frigorifie un certain nombre de personnes. Mais je crois qu'il faut être très pragmatique. Les libertaires doivent bien comprendre ça. Ils doivent comprendre une chose, c'est qu'il faut utiliser l'État comme un ouvre-boîte. Moi, j'ai utilisé Internet comme un ouvre-boîte quand l'État français était fermé et qu'il y avait besoin de l'ouvrir avec Internet parce qu'il y avait besoin de liberté dans ce pays. Bon, à partir du moment où l'Internet se referme et devient un conglomérat de petits empires concurrents, il faut utiliser l'ouvre-boîte des pouvoirs publics pour réouvrir Internet. Donc, peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, comme disait un grand démocrate, entre guillemets. Bon, donc on doit utiliser l'État. Donc on doit utiliser l'État, et on doit utiliser l'État en associant à cette démarche, alors ce qui fait peur, alors à ce moment-là, à toute la haute fonction, publique et autres, tout l'univers du hacking, tout l'univers créatif, bouillonnant, imaginatif, qui va devoir amener sa collaboration, parce que qu'est-ce que c'est cet OS souverain? C'est notre nouvelle constitution, c'est en fait... Un système d'exploitation aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une constitution pour un État. Donc, il y avait Lessig, qui est un juriste américain, qui avait écrit un
livre
qui s'appelait Code is Law. Il disait
le code, c'est la loi.
Le code, c'est la loi. Bon, eh bien, nous, ce qu'on va faire avec le système d'exploitation souverain, c'est la loi, c'est le code, et cette loi, c'est la liberté. Donc, on va faire ce que les Canadiens appellent le privacy by design, c'est-à-dire qu'on va mettre la vie privée et nos libertés au cœur du code. Et ça, on aura besoin de toutes les bonnes volontés du monde entier, d'ailleurs, pour pouvoir le faire.
Est-ce que vous vous servez de votre puissance médiatique? Vous dirigez donc une radio qui s'adresse en plus aux jeunes, donc à l'avenir. Est-ce que vous vous en servez? Je suis allé me promener sur le site de la radio, j'ai écouté. On n'a pas le sens. Par exemple, vous appelez, bien sûr, comme toutes les radios, à vous suivre sur Twitter, sur Facebook. Enfin, vous utilisez les outils comme tout le monde. Est-ce que vous vous servez de votre puissance médiatique pour diffuser ces messages?
Moi, je crois que le principe de base, c'est d'abord appliquer ce qu'on dit, et c'est la démonstration par l'exemple. Donc, Skyrock et ses blogs, ses 30 millions de blogs, c'est le premier réseau social mondial francophone, c'est le deuxième réseau social en France, c'est le premier réseau social de blogs en Europe. Son slogan, c'est « Ici, t'es libre ». Le principe de base, c'est que les gens, les utilisateurs, et ils sont nombreux, il y en a 1,5 million par jour sur nos plateformes web et mobiles, sont propriétaires de leurs données, ils effacent. Ils ont la possibilité d'avoir l'identité de leur choix, ils peuvent avoir 3-4 blogs, etc. Donc par rapport à des réseaux sociaux où finalement vous êtes figé dans la résine et toutes vos bêtises sont là pour l'éternité, sans que vous fassiez, quand vous cherchez à les effacer, elles sont pas effacées, c'est vos amis, etc. C'est cette liberté qui nous fait vivre. Donc à la fois, on est resté compétitif et on est en avance parce qu'on est libre, c'est ça la démonstration qu'on a fait. Et en second lieu, on a une application de nos règles à nos services en permanence.
Et dans les messages que vous délivrez à la radio, parce que vous avez donc, c'est une radio musicale, mais avec des tranches d'animation, est-ce que vous essayez de faire passer ces idées,
ah,
de sensibiliser? Pas du tout.
Pas du tout. En fait,
c'est paradoxal, non?
Non, parce que Skyrock est une radio, je dirais, de témoignage, d'expérience. Donc, c'est pas une radio de discours. C'est une radio de vécu. Donc, vous avez des auditeurs qui appellent avec leurs expériences, qui racontent ce qu'ils vivent, etc. Mais nous ne sommes pas là pour délivrer un discours. On est là pour partager ensemble une expérience de vie avec toutes ses facettes. Donc, je dirais, ça se vit à l'antenne, tout ce qu'on dit, par les expériences que les auditeurs racontent. Mais j'ai pas besoin de théoriser ou d'expliquer quoi que ce soit. En fait, le réel me suffit.
Dernière question. Quelle place pour les pays les moins développés? Parce que donc ce livre s'adresse essentiellement à la France, peut-être à l'Europe plus généralement. Quelle place pour les pays qui ont moins, tous ces pays dont le PIB est en dessous du chiffre d'affaires des géants d'Internet,
alors,
que ce soit Google, Facebook,
oui,
Apple, etc.
La la place est capitale et j'irai en premier lieu pour l'Afrique francophone. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du fuseau, qui est de dire que le français est la seule langue transnationale dont 85% des locuteurs sont sur deux fuseaux horaires. Bon, donc
c'est une grande chance pour Radio France Internationale.
Mais c'est dément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites un réseau social, aujourd'hui notre réseau de blog est extrêmement puissant partout dans le monde francophone, simplement par cette règle du fuseau qui fait qu'il n'y a jamais eu autant de gens connectés simultanément parce qu'ils sont sur les mêmes heures. Bon, donc ça c'est déjà une règle du fuseau qui est importante au niveau internet où la frontière c'est le temps et plus la géographie.
Et la langue.
Et la langue. Bon, la deuxième chose, c'est que la souveraineté numérique s'exporte. Je suis aujourd'hui un pays émergent qui va devoir prendre des décisions sur ses infrastructures, sur son développement. C'est le moment. Et je pense qu'on peut avoir, avec les pays de la francophonie, avec tous les pays avec lesquels on partage ce souci de liberté, la construction commune de cet espace de souveraineté numérique.
Merci Pierre Bélanger. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Stock, c'est La souveraineté numérique. Sur la couverture, on peut voir des 0 et des 1 et des 0
qui veut dire souveraineté numérique, en 0 et 1.
Ah oui,
c'est réel, oui, oui.
Ah, c'est donc une vous super avez mis couverture. En code,
c'est
ou
pas
en tout
moi,
cas en langage
l'illustrateur
informatique.
L'illustrateur a été absolument génial, puisque c'est du code informatique.
On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien et des liens et des informations complémentaires concernant ce sujet. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 350 de l'atelier des médias proposé par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, une entreprise et que vous souhaitez appuyer ou sponsoriser l'atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ça continue sur internet.